Je vais vous parler donc de mon livre « Mille et une fois ». Alors ce livre, c'est un regard incrédule, mais avec une vision transversale sur l'ensemble des croyances et des pratiques religieuses dans le monde, face au savoir du XXIe siècle. Ce livre est très j'ai fait très attention pour qu'il soit facile à lire, parce qu'il est divisé en 10 chapitres, avec autant de sous-chapitres, il y en a 70 environ. Donc ça peut se lire par petits morceaux. Et j'ai commencé mon livre par les mystères, parce qu'on peut se poser la première question, c'est où sommes-nous ? Nous sommes sur une petite planète qui est dans le système solaire, et vous savez bien qu'il y a à peu près 200 milliards d'étoiles, c'est-à-dire de soleils, avec aussi leurs planètes qui tournent autour, dans notre seule galaxie. Mais il y a aussi plus de 200 milliards de galaxies qui ont toutes autant d'étoiles. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est l'univers et l'humanité. Qu'est-ce que c'est ? Et l'humanité, nous sommes une chaîne. Nous avons avant nous 500 000 générations d'hominidés qui nous ont amenés à l'homme moderne. Également, les mystères de l'art et des langues, les mystères de l'écriture et des premières civilisations. Et si on reprend l'ensemble des croyances et des religions, les religions se sont construites pierre par pierre. C'est-à-dire, elles ont emprunté aux premières religions et elles se sont construites au fur et à mesure. Et la première religion que l'humanité a connue, c'est l'animisme. On peut dire qu'il y a 30 000 ans d'animisme. Des animistes qui sont encore présents aujourd'hui. Il y en a même à Bordeaux. Parce que vous savez qu'à Bordeaux, il y a à peu près une cinquantaine de religions. D'ailleurs, en vous parlant des différentes entre les religions, je vous dirai au passage celles qui sont représentées à Bordeaux. Donc l'animisme, qu'est-ce que c'est ? C'était anima, l'âme. L'âme, c'est le souffle de vie qui à l'époque passait aussi bien de l'homme à l'animal, mais de l'animal à l'homme. On ne savait pas trop la différenciation entre l'humain et l'animal. Je reviens ici il y a très longtemps, bien sûr. Et le souffle de vie, l'homme mourait. C'était son dernier souffle, son âme s'envolait. Mais dans la mémoire des vivants, restait quand même la mémoire, on se souvenait de ce qui était mort. Donc cette âme pouvait perdurer de génération en génération. 30 000 ans d'animisme, donc, qui a donné le chamanisme, le chaman. C'était bien souvent on pourrait dire que c'était des sorciers qui étaient toujours proches du chef, parce que le chef de clan, avait besoin de s'appuyer. Et le sorcier était toujours le bon conseil, parce qu'il expliquait l'inexplicable. Il pouvait dire, tiens, telle chose qui est arrivée, telle cataclysme, il y a moyen de l'expliquer et tout ça. Donc le sorcier confortait le pouvoir du chef de clan. 30 000 ans d'animisme, suivi par 10 000 ans de polythéisme, avec les premiers dieux. Et le premier dieu, c'est le dieu soleil. D'ailleurs, le mot dieu vient de l'indo-européen Deiwu, avant que le théos, que les Grecs inventent le mot théos, théologie, ou les Romains ensuite, Deus, le dieu. Mais les premiers dieux, on revient en Mésopotamie, le dieu Marduk, le dieu du soleil, il y a 4000 ans. Les dieux d'Égypte, des pharaons. Donc, polythéisme et le soleil, très important, puisque aujourd'hui, nous avons toujours une semaine polythéiste. Le dimanche, c'est bien le Sunday, le jour du soleil. Dies Dominica en latin, le jour du Seigneur rayonnant. Après, le deuxième dieu, c'était la déesse lune. Monday, lundi, et je continue, mardi, Mercure. Mercredi, jeudi, Jupiter. Samedi, Saturday, Saturne. Donc aujourd'hui, nous vivons encore avec une semaine polythéiste. Et bien sûr, les monothéistes après ont récupéré ces fêtes. Donc il ne faut pas oublier que derrière nous, nous avons 30 000 ans d'animisme et 10 000 ans de polythéisme. Et des premiers essais de cultes monothéistes, notamment en Égypte, avec le culte d'Akhenaton. Tout le long du Nil, il y avait des petits royaumes, chacun avait son dieu. Les prêtres de Thèbes ont essayé d'unifier l'ensemble de cette religion, mais surtout Akhenaton. C'était le dieu Aton, Et le dieu Hadron, c'était le disque solaire. On revient encore au soleil. Et il a essayé de lancer un premier monothéisme avec son épouse, la reine Néfertiti. Monothéisme qui n'a pas duré, qui n'a pas survécu, parce que les prêtres de Thèbes, qui, eux, faisaient leur argent avec les dieux multiples, eh bien, il était combattu. Mais ce Akhenaton est très important, parce qu'il va marquer les autres religions, notamment les monothéismes qui vont arriver après. Et bien sûr, les dieux et déesses gréco-romains, à commencer par Zeus, le rayonnant, le dieu grec, qui va devenir Jupiter, le dieu romain. Donc ces dieux se sont construits un peu à la fois. Et le polythéisme, toujours présent aujourd'hui, avec l'hindouisme, avec ses trois dieux, la trinité hindoue, Brahma le créateur, Vishnu le conservateur, ou Shiva le destructeur. Polythéisme hindouiste, mais également au Japon, avec le shintoïsme, la voie des dieux. Et vous avez à Bordeaux ici des hindouistes. Vous avez à Bordeaux, j'en ai connu un dans un restaurant japonais, vous avez des shintoïstes à Bordeaux. Vous avez 50 religions. Vous avez des animistes à Bordeaux. Je connais. Donc, polythéisme, également, puisqu'on est sur l'Asie, le bouddhisme, avec Bouddha. Alors, la différenciation entre philosophie et religion est parfois ténue. Bouddha a fondé sa philosophie contre l'hindouisme, contre le système des castes. Donc, il a essayé de trouver un nouveau système pour atteindre le nirvana. Hein, pour pas que puisque dans l'hindouisme, vous mourrez, mais vous pouvez renaître aussi bien dans un animal que dans un humain. Et le pire pour un hindouiste, c'est de renaître en tant que chien ou en tant que femme. On le dit encore aujourd'hui, si vous allez en Inde. Et donc un système de caste. Et bien sûr, la caste supérieure, c'est la caste des brahmanes, la caste des prêtres et la caste des guerriers. Et il y a les autres castes en dessous. Et vous naissez dans votre caste et vous êtes obligé de rester dans votre caste. L'hindouisme, le shintoïsme, également le bouddhisme, avec Bouddha comme je le disais, le taoïsme, Lao Tse, la voie. J'ai rencontré des taoïstes à Bordeaux, dans un restaurant chinois. Le jainisme, moins connu, avec Mahavira, le grand héros. Et je vais m'arrêter sur le confucianisme. Alors, des religions sans Dieu, parce que le bouddhisme au départ, le taoïsme, ce sont des religions sans Dieu. Et le confucianisme est une religion que je qualifie d'agnostique. Alors, on va me dire, philosophie ou religion ? Grand débat. Toutes ces religions ont été lancées il y a à peu près 2600 ans. Et c'était à l'époque de Socrate. Confucius et Socrate ont vécu à peu près à la même époque. Mais vous n'avez pas aujourd'hui de temple et de prêtres socratiques. Donc, Socrate, puis après lui, Platon et Aristote, c'est bien une philosophie. Par contre, Confucius, vous avez des prêtres, vous avez des temples. Et comme j'ai la chance, le mois prochain, d'aller en Chine, je vais faire un voyage, je vais aller à Pékin, et de Pékin, vous avez Shanghai qui est au sud, et entre les deux, vous avez une ville qui s'appelle Khufu. C'est là où Confucius est né, il est mort également, et il y a un cimetière sacré où les 200 000 personnes de la famille de Confucius ont été enterrées. Et donc, il y a un institut confucianiste, et je vais essayer de savoir, enfin, de répondre à ma question que j'ai depuis des années, le confucianisme, philosophie, comme celle d'Aristote, ou alors religion. Pour moi, je pense que c'est une religion, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà. Une religion qu'on a complètement oublié, mais qui est toujours vivante, le zoroastrisme, avec Zarathoustra, en Perse, qui a le dieu unique, puisqu'il avait le dieu Ahura Mazda. C'est quand même Zarathoustra qui a inventé le paradis, mot perse qui a été repris par les Grecs, paradisios. Le premier paradis, il le décrit dans ses livres, qu'il n'a d'ailleurs pas écrit, que ses fidèles ont écrit après lui. Il a également inventé le purgatoire, un pont étroit, on se dirige vers le ciel. Et ce pont est tellement étroit que ceux qui ont mal agi tombent. Et le ciel, c'est toujours en haut. Et l'enfer, c'est dans la terre, parce que la terre, ce sont les volcans, c'est la lave. Donc on est brûlé dans l'enfer. Donc Zarathoustra, très important. Et que le christianisme, et même l'islam a repris, Parce que dans l'islam, vous avez toujours un ange à droite, l'ange du bien, et un ange à gauche, l'ange du mal. Parce que bien sûr, la main droite, c'est le bien. Les gauchers, c'est le mal. Dans l'Église, les femmes sont à droite. Les hommes sont à droite, pardon. Les femmes sont toujours à gauche. Donc, le zoroastrisme, très important. Et j'arrive au judaïsme. Le judaïsme, quand vous lisez la Bible, vous trouvez 680 fois le mot Égypte. Ce qui montre bien que le début du judaïsme s'est fait indéniablement en Égypte. D'ailleurs, Moïse est né et mort en Égypte. Et le judaïsme a certainement bénéficié des retombées des fidèles d'Akhénaton, parce que après Akhénaton, il ne faut pas croire que tous les fidèles d'Aton ont continué à exister, même s'ils ont été poursuivis par les polythéistes qui sont revenus au pouvoir avec les pharaons en Égypte. Et le judaïsme a aussi une autre source, c'est qu'à l'époque, l'Égypte dominait militairement la Palestine et était en conflit avec Babylone. Et les Babyloniens ont réussi à battre les armées égyptiennes, donc ils ont envahi la Palestine, ils sont arrivés d'ailleurs jusqu'au Sinaï, et ils ont récupéré les égypto-hébreux, tous les prêtres, parce qu'il était coutume d'emmener d'abord les femmes en captivité, et d'emmener également les grands prêtres, les personnes qui avaient une importance et qu'on récupérait dans sa propre civilisation pour permettre le développement. Et ces égypto-hébreux, en allant en Mésopotamie, se sont trouvés face à la religion de Babylone et surtout tous les écrits de Zarathoustra, y compris les écrits les plus anciens, comme un œil pour un œil, une dent pour une dent. Cette loi du talion date d'il y a 4000 ans sur la stèle d'Amourabi, roi mésopotamien, que vous retrouvez d'ailleurs au musée du Louvre. Si vous allez une fois au musée du Louvre, allez voir cette stèle. Et donc, on retrouve cette loi du talion qui a été reprise par la Bible et reprise par le Coran. Donc, comme je vous le disais, les religions se sont construites un peu à la fois. Et j'ai même, à Bordeaux, je connais un couple zoroastrien. Ce sont des réfugiés de l'Iran qui ont été chassés parce que les zoroastriens... Le zoroastrisme a quand même duré, et dure encore aujourd'hui, il a duré plus d'un millénaire avant d'être combattu par l'islam en Perse. Sachez qu'aujourd'hui, il y a actuellement environ 500 000 de zoroastriens qui sont à Bombay. Et par exemple, la grande entreprise indienne Tata, que vous connaissez peut-être, ce sont des prêtres zoroastriens qui la dirigent. Donc, le judaïsme, né en Égypte et en Mésopotamie, puisque si vous prenez le déluge de Noé, par exemple, il y avait des déluges, on retrouve des déluges dans la littérature mésopotamienne, il y a eu d'autres déluges, donc c'était des reprises. Et bien sûr, le christianisme. N'oublions pas que Jésus est né juif, il est mort juif, et Jésus n'a jamais renié le judaïsme. Jésus ne pouvait pas être chrétien, puisque le mot chrétien n'existait pas encore. Le mot chrétien est venu bien après. Il a mis un siècle ou deux siècles, puisque chrétien, ça vient de Christ. Christ, ça veut dire quelqu'un qui est oint par un sacrement. Et Jésus, justement, avait été oint par un sacrement, donc il était devenu le Christ. Et il y avait beaucoup de sectes juives. Et le christianisme aurait très bien pu rester une secte juive de plus. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Mais heureusement, grâce à Paul, qui avait la citoyenneté romaine et qui, lui, pouvait voyager dans tout l'Empire romain. Parce que quand vous n'étiez que palestinien, et Jésus n'était que palestinien, ou ses apôtres immédiats, il restait en Palestine. Donc Paul a permis de diffuser le christianisme, enfin, qui ne s'appelait pas encore christianisme à son époque, et surtout, au lieu de s'adresser seulement qu'aux juifs, parce que n'oublions pas que les 12 premiers évêques de Palestine, les 12 premiers évêques que l'on appelle chrétiens, étaient tous des juifs circoncis. Et donc Paul s'est adressé non seulement aux juifs, mais également ce qu'on appelait les craignants Dieu. C'est-à-dire les gens qui voulaient un peu arrêter le polythéisme, qui étaient prêts à aller vers un monothéisme, parce que ça semblait quand même une idée plus intéressante, mais qui avaient quand même un peu peur, qui ne voulaient pas être circoncis, hein, et qui avaient un peu peur aussi, parce que n'oubliez pas que c'était le pouvoir romain, et que le pouvoir romain, avec les juifs, il y a eu combien de massacres. Donc, ils ont rejoint Paul. Donc, il a su attirer des crénoms dieux et, un peu à la fois, le christianisme a augmenté. Mais il s'est divisé très vite, puisque vous avez différentes, il y a eu différentes églises, les églises d'Antioche, les églises d'Alexandrie, qui se sont combattues, chacun revendiquant ses fidèles ou appelant à son secours le pouvoir romain. Et vous avez, par exemple, Arius, le prêtre Arius d'Alexandrie, qui, lui, Jésus, ce n'est qu'un prophète, ça ne peut pas être un dieu. Parce que n'oubliez pas que les premiers dieux, Jésus ne prêchait, c'était Yahvé, il faisait référence à Yahvé. Il ne faisait pas référence à Dieu, c'est bien après qu'on a remplacé Yahvé par Dieu dans le christianisme. Et donc, je reviens, excusez-moi. Donc, Arius, et c'est très important, parce que les arianistes, c'est eux qui ont christianisé tous les barbares qui sont arrivés de l'Est, et notamment les Wisigoths. Et d'ailleurs, l'Espagne a été conquise par des Wisigoths arianistes. Et les gens, des Celtibères qui vivaient à l'époque en Espagne, sont devenus chrétiens arianistes. Pour eux, Jésus n'était qu'un prophète. Ils croyaient en un dieu. Et vous comprenez que quand les musulmans sont arrivés après, c'était très facile, parce que les gens, ils avaient quand même une connaissance minimum de la religion. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'écrit sur les différents livres à l'époque. Et donc, ah oui, il y a un nouveau prophète. Oui, il y a eu un nouveau prophète, il y a eu Jésus, mais depuis, et c'est toujours le nouveau prophète qui a raison. Puis quand vous avez devant vous des gens qui sont bien armés, vous n'hésitez pas trop, puisque c'est toujours le même Dieu. Donc, ça explique justement l'arianisme qu'on a complètement oublié aujourd'hui, la facilité avec laquelle on est passé du christianisme à l'islam, du moins en Espagne, et puis non seulement en Espagne, mais dans tous les pays, dans les pays du Maghreb, qui étaient des pays berbères. Et les berbères étaient les tribus, il y avait des tribus principalement polythéistes, mais il y avait des tribus chrétiennes, des tribus juives, et qui sont passées. Alors, certes, il y a eu des guerres, ça, il ne faut pas croire que ça s'est passé comme ça, mais qui sont passées musulmanes. Donc, il faut parler d'église chrétienne. Également, il y a une autre religion qui s'est intercalée entre le christianisme et l'islam, il ne faut pas l'oublier, parce que pour l'islam, c'était important, parce que l'islam a repris des choses, c'est le manichéisme, avec Mani, qui était un prêtre, et qui, lui, a fait un syncrétisme de christianisme, de zoroastrisme et de bouddhisme. Il avait trois influences différentes. Et il a fondé une religion où le bien et le mal étaient bien séparés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit, tiens, tu es manichéen, c'est parce qu'on voit tout en bien ou en mal. Religion qui a, pour ainsi dire, disparu parce qu'elle s'est fait prendre en sandwich entre le christianisme et l'islam. Et d'ailleurs, les derniers manichéens ont été chassés du Moyen-Orient par les musulmans. Et on les a retrouvés, quand on émigre, on prend le bateau, et puis on arrive à Marseille. Et d'ailleurs, les cathares, dans les cathares, il y avait des manichéens. Donc il y a une tradition comme ça qui a perduré. Mais si l'Église s'est séparée en quantité d'Église, c'est le cas de le dire, avec des schismes, également l'islam, au 7e siècle, très tôt, s'est divisé, à commencer par les Kharijites. Les Kharijites, ce sont les premiers qui ont quitté, qui n'étaient pas d'accord avec Mohammed, parce qu'ils ne voulaient pas d'une succession familiale. Pour eux, le chef, même religieux, puisque le pouvoir spirituel et temporel était lié à l'époque, c'était sa bravoure. Et aujourd'hui, à Oman, c'est toujours un chef spirituel, Kharijite, qui a le pouvoir. Donc les Omanais sont toujours Kharijites. Et si vous voulez comprendre aujourd'hui l'actualité avec les révoltes qu'il y a en Syrie, au Yémen, par exemple, il faut savoir qu'en Syrie, il y a eu quand même un imamat chiite qui a duré jusque 1960. Avant que les sunnites égyptiens, aidés de l'argent des pétrodollars saoudiens également sunnites, aient battu militairement les chiites qui s'appellent des haïdites. Parce que parmi les chiites, c'était Ali. Ali qui était le cousin et le gendre de Mohammed, qui s'était disputé très tôt dans la succession de Mohamed, puisque Mohamed n'a eu que des filles. Il n'avait pas aucun garçon. Donc, à l'époque, c'était le garçon, normalement, qui succédait. Donc, il y a eu des embrouilles, et il y a eu des califes, les plus proches de Mohamed au début. Ali a voulu prendre le pouvoir. Ils se sont battus entre les chiites et les sunnites. Et Ali a perdu. Et donc, il a fondé une religion différente, avec des Corans différents. Parce que les chefs militaires, quand les sunnites et les chiites se battaient, ils se sont rendus compte que leurs troupes ne récitaient pas les mêmes versets. Ce qui était quand même gênant. Donc, les chiites qui se sont morcelés en 12 imams différents, qui ont donc fait 12, alors on peut dire église ou secte, hein, parce que qu'est-ce qu'une secte, qu'est-ce qu'une église ? Une église est une ancienne secte qui est devenue une église. Mais des églises également disparaissent et deviennent des sectes. Donc, il y a eu 12 imams, donc 12 types de chiisme différents. En Syrie, Al-Assad, par exemple, actuellement, c'est une secte chiite minoritaire qui dirige la Syrie, alors que la majorité de la population est sunnite. Et pourquoi le fils a succédé aussi vite à son père ? Parce qu'il fallait absolument garder le pouvoir de cette secte chiite. Et d'ailleurs, quand vous êtes une minorité au pouvoir, vous avez tendance à protéger les autres minorités. C'est pour ça que les chrétiens ont toujours été protégés en Syrie, jusqu'à maintenant. Également les juifs. Avant la création d'Israël, parce que les juifs sont tous partis en Israël, mais avant, il y avait une communauté juive très importante en Syrie. Pas seulement en Syrie, mais au Yémen également. Puisque avec les chiites, ils étaient beaucoup plus coopératifs. Ils avaient laissé les juifs yéménites vivre tranquillement. Schisme, donc, de l'islam, mais également chez les sunnites, vous avez quatre écoles différentes dans le sunnisme. Et les malikites, par exemple, du Maghreb, qui sont beaucoup plus tolérants, n'ont pas grand-chose à voir avec les wahhabites d'Arabie saoudite, où là, c'est un sunnisme, un islam hyper conservateur. Mais les chrétiens aussi, vous le savez très bien, 1054, la Méditerranée se divise, avec Rome d'un côté et les chrétiens orthodoxes de l'autre côté. Et plus terrible au XVIe siècle, avec Luther et Calvin, les protestants. Et suite aux protestants, il y a des grandes églises luthériennes et calvinistes, mais vous avez eu également, vous avez d'autres églises, les baptistes, les méthodistes, des gens qui sont des méthodiques dans leur religion, les quakers, parce que des trembleurs, ils tremblent devant Dieu. Je ne vais pas tous vous les citer, les témoins de Jéhovah, les mormons aux États-Unis. Vous avez des représentants de toutes ces religions à Bordeaux, hein. Pas toutes, mais la plupart. Et bien sûr, les guerres de religion qui ont toujours existé, parce que chacun voulait attirer le plus grand nombre de fidèles, et puis la vérité de l'un n'était pas la vérité de l'autre. Et vous aviez donc des guerres de religion qui durent toujours aujourd'hui. Hein. La guerre entre les protestants et les catholiques qui vient de se terminer en Iran. La guerre entre les hindouistes et les bouddhistes au Sri Lanka, la guerre entre les hindouistes et les musulmans, ou alors une autre religion, les sikhs, qui étaient au Cachemire et qui avaient fondé une religion qui était face à l'islam mais face aussi à l'hindouisme, les sikhs qui se battent à la fois contre les musulmans et contre les hindouistes. Bref, si vous regardez un peu tous les conflits qu'il y a aujourd'hui, et puis bien sûr entre les chiites et puis les sunnites, et puis avec Bush, les ribbons, ceux qui sont renés, les évangéliques, actuellement, qui progressent partout, puisque actuellement en France et dans le monde, on est à plus de 50%, alors évangéliques, donc je suis obligé de les mettre parmi les protestants, on est à plus de 50%, les catholiques maintenant deviennent minoritaires dans le monde. Vous avez les évangéliques se développent aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, partout, et y compris en France. Donc on manque de mosquées pour les musulmans, mais on manque aussi de temples pour les évangéliques. Alors bien sûr, ce serait peut-être l'idéal si on voulait créer un temple unique, comme il existe une église en Syrie que j'ai visitée, et c'est très intéressant parce que c'est une église chrétienne, et il y a un mur face à la Mecque où vous n'avez aucune décoration, puisque l'islam, comme le judaïsme, interdisent toute décoration, les crucifix, etc. Et donc vous avez un mur qui est... Donc les musulmans viennent le vendredi, et puis le dimanche, vous avez les catholiques. Si on pouvait lancer cette idée ici, ça permettrait de remplir d'abord les églises le vendredi, qui sont bien souvent vides, et puis les musulmans, s'ils acceptaient. N'oubliez pas que Mohammed l'avait accepté, puisque quand il était à Médine, il avait accepté de recevoir des chrétiens pour faire un accord avec eux. Et dans sa mosquée, les chrétiens avaient prié. Et les premiers musulmans qui sont arrivés en Syrie, ils priaient où ? Dans les églises. Ils priaient dans les églises. Alors on transformait les églises, hein, ils se tournaient du côté de la Mecque. On retirait tous les tableaux et tout ce qui était un peu trop... Parce que quand vous avez des hindouistes, les hindouistes adorent venir dans les églises. Ils se retrouvent un peu chez eux, avec ces dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les saints montés au ciel. Et l'encens, et la bougie. Voilà. Donc j'ai fait un tour rapide des 1001 religions, et c'est d'ailleurs le titre de mon livre, 1001 fois. Parce que quand on fait le tour des religions du monde, on arrive à plus du millier de croyances différentes. Religion, j'entends, avec une communauté, avec des prêtres, avec un livre saint, bien souvent. Je me suis intéressé ensuite aux prophètes. Alors, sur l'affiche, et c'est la couverture de mon livre, vous voyez ici que j'ai intitulé ça « Le pédicule prophétique ». Issus de la terre. Et j'ai commencé par les plus anciennes. J'ai mis Brahman, parce que dans l'hindouisme, il n'y a pas de prophète déterminé. Il y a tellement de dieux dans l'hindouisme qu'on a perdu tous les noms des premiers qui ont inventé les premiers dieux. Et donc, Brahman, et Confucius, Bouddha, Akhenaton, très important, Zoroastre, Abraham, parce que Abraham, vous avez le tronc commun, à la fois pour le judaïsme, avec Moïse, et avec le christianisme, avec Jésus puis Luther, Mani, que j'ai quand même mentionné ici, et vous avez Mahomet et Ali pour les chiites, et puis j'ai bien mis dessus une continuation, c'est parce que Mohamed ou Mahomet, hein, c'est la même chose, a dit « Je suis le dernier des prophètes ». Eh bien non, je regrette, il y a eu beaucoup de prophètes après lui. Il y a eu d'abord les sikhs qui ont fondé leur religion, comme je vous l'ai dit, il y a eu également les baïs, qui ont fondé une religion qui est au XIXe siècle, qui est donc relativement récente, et c'est à la fois, si on peut appeler ça un syncrétisme, de l'islam, du christianisme. C'est un dieu unique, mais qui a enlevé tous les rites. Et d'ailleurs, c'est la première religion qui admet l'égalité complète entre l'homme et la femme. Et c'est bien de le souligner. Mais c'est parce que c'est une religion récente. Mais j'en ai oublié deux. Il faudrait également rappeler Ron Hubbard, la scientologie, hein, qui est certes une secte en France, mais dès que vous traversez la frontière espagnole, c'est reconnu comme une église à Madrid. Et vous avez le temple, je suis allé, vous avez le temple officiel, il n'y a aucun problème. C'est une église, aux États-Unis aussi. Je me suis ensuite intéressé, et je respecte ici à peu près mon délai, je me suis intéressé aux différents rites. Après les prophètes, quelle était l'origine des rites ? Et parmi les rites, le premier, c'est ce que j'appelle l'endoctrinement religieux. C'est que les religions, et ça c'est un trait commun, toutes insistent pour conquérir le cœur et l'esprit de l'enfant. Il est bien plus facile d'imposer une religion à des jeunes que d'imposer une religion ou de s'adresser au cœur d'un adulte. Et la plupart du temps, on reste dans sa religion de jeunesse, sans trop se poser de questions. Il y en a très peu qui renient leur religion ou qui recherchent. Et j'ai bien souvent découvert davantage de spiritualité chez des incroyants que chez des croyants, qui ne font que répéter ce que leur famille leur a inculqué, et puis qui continuent. Alors, ceci était relativement facile dans le monde passé, parce que dans chaque pays, il y avait une religion dominante. Au Maroc, on ne pouvait être que musulman. En France, on était catholique, à la rigueur, protestant ou juif, mais avec toutes les guerres que cela a données. Donc chaque pays... Mais avec la mondialisation, maintenant, vous regardez par Internet, toutes les religions, de la plus grande à la plus petite, à la même page interface. Il n'y a pas de différence entre les grandes et les petites. Chacun peut faire beaucoup de bruit s'il le veut. Et donc, avec les voyages, avec les migrants. Il y a à peu près 300 millions d'immigrés qui circulent dans le monde. Chaque année, il y a 1 milliard de personnes qui se déplacent. Il y a 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Donc, tout ça est mélangé. Et les gens, et d'ailleurs vous-même, quand vous regardez votre journal télévisé de 20 heures, on se reçoit des informations. On a du mal à comprendre. Donc, je me suis intéressé à l'endoctrinement, également le culte, les prières qui sont très importantes, parce qu'on incruste dans le corps des enfants une religion avec une répétition de mouvements qui est très importante. Et ça provoque une joie. D'ailleurs, vos endorphines, quand vous faites un sport, là j'ai un sportif devant moi, vous savez très bien que quand vous faites un sport, si vous arrêtez votre sport, vous êtes en manque. Parce que vous avez les endorphines, les orphines qu'on appelle du bonheur, que notre cerveau sécrète et qui nous protège d'ailleurs de la douleur. Et quand vous êtes habitué à suivre une religion, eh bien, ça devient un besoin. Et toute votre vie, vous allez garder ce besoin. Et quand vous regardez l'Égypte actuellement, ce qui se passe, le pays le plus religieux au monde, pour moi, est l'Égypte, indéniablement. Ils ont vécu 3000 ans de la religion pharaonique. 3000 ans de polythéisme, mais aussi de monothéisme, avec Akhenaton. Ils ont vécu 1000 ans de christianisme. Parce que les musulmans ne sont venus majoritaires en Égypte qu'à partir de l'an 1000. C'est comme quand on dit en France 2000 ans de christianisme en France, je rigole. 1000 ans de polythéisme, oui. Le christianisme est devenu majoritaire en France qu'avec la construction des cathédrales. 11e, 12e siècle. Là, les chrétiens ont commencé, et les catholiques, à être majoritaires. Mais avant, nous avons eu 1000 ans de paganisme en France, avec nos dieux. Et ça, on l'oublie. Je me suis aussi amusé, c'est le cas de dire, et c'était l'objet d'ailleurs, je fais un café spirituel qui a lieu le dimanche, qui a lieu pas loin d'ici, au café Les Mots Bleus, dans la rue qui est parallèle à celle-ci, la rue Pauquelin-Molière, et avec croyants et incroyants. Et là, c'est différent, parce que je ne parle pas de mon livre, je lance un sujet sur 10 minutes, et pendant 1h15, c'est un débat ouvert, et où je fais le médiateur. Donc, vous voyez, c'est différent ici. C'est avant tout, je vous présente mon livre. Donc, j'ai fait un café spirituel sur les rites alimentaires. Pourquoi le poisson? Pourquoi la vache? Pourquoi le porc? On peut se poser des questions. Également, sur d'autres rites, l'égorgement kasher, qui veut dire convenable, ou halal, qui veut dire licite. Pourquoi ces sacrifices animaux? Et en fait, ces sacrifices animaux, il ne faut pas l'oublier. Regardez la Bible. Ils ont remplacé les sacrifices humains. Et il était bien difficile pour faire admettre à des gens habitués aux sacrifices humains, parce qu'on sacrifiait l'aîné de la famille, on sacrifiait la fille vierge. Et c'est Abraham. Au lieu de sacrifier son fils, il sacrifie le mouton. Et c'est le passage donc, du sacrifice humain au sacrifice animal avec les premiers monothéismes. Très important. Zarathoustra aussi. Hein, il en avait marre de tous ces sacrifices des polythéistes de Perse, tous ces sacrifices humains. Et il a arrêté ça. L'alcool, le vin et la bière. Pourquoi hein, alcool, mot arabe, alcool, alcalin, alambic, alzan, algèbre, algorithme. Il y a à peu près 300 ou un peu plus de mots d'origine arabe dans la langue française, alors que nous avons moins de 100 mots d'origine gauloise. Vous voyez, il faut relativiser les choses. La bière mésopotamienne, il y a 4000 ans, il y avait de la bière. Également en Chine, et là je vais aller en Chine et je vais vérifier, on m'affirme que la première choucroute est d'origine chinoise et non allemande. Donc les Chinois faisaient déjà une espèce de choucroute avec une bière locale. Je vais aller vérifier ça parce qu'il y a des Allemands qui me soutiennent que non, c'est sûr, la choucroute, ça ne peut être qu'allemand. Le vin, les premiers vins, c'est en Égypte, au temps des pharaons. On a retrouvé des amphores sur lesquelles il y avait le cépage, le nom du propriétaire, le lieu et même la notion de millésime. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Je me suis posé également la question des chiffres magiques et des calendriers. Je vais passer rapidement. Le chiffre 7, le chiffre 13, hein, le chiffre 12, sacré, le chiffre 13. On passe ainsi dans une rue du 12 à un rassurant 12 bis, et surtout pas un 13. Mais pour les Chinois, c'est le chiffre 4 qui est homophone du mot mort. Et bien sûr, quand vous allez à l'hôpital de Pékin, vous passez directement du 3e au 5e étage. Il viendrait à personne l'idée d'aller se faire soigner dans un 4e étage, qui signifie la mort. Et je me suis intéressé également au carême et au pèlerinage, et notamment aux deux plus grands pèlerinages du monde, le pèlerinage de Bénarès pour les hindouistes, où il y a des millions et des millions d'hindous qui vont se purifier dans le Gange, l'un des fleuves les plus pollués de la planète. Vous savez que les hindous défèquent dans la nature à 80%. Il n'y a pas encore de toilettes. Et puis toutes les entreprises qui rejettent... donc, aller se purifier dans le Gange, d'accord, mais il faut avoir du courage. Enfin, aller voir l'eau, moi je ne m'y baigne pas personnellement. Autre pèlerinage polythéiste, la Mecque. La Mecque était un pèlerinage polythéiste, très très ancien. Mohammed l'a repris intégralement. Tous les rites que font actuellement les musulmans à la Mecque, ce sont des rites polythéistes. On tourne cette fois autour de la Kaaba. On jette des pierres sur Satan. Tous les rites. Il l'a repris intégralement. Bien. Et également, rite dans lequel je parle et que beaucoup de gens préfèrent éviter, ce sont les mutilations sexuelles avec la circoncision. D'où vient la circoncision? Ce n'est pas les Juifs, ce sont les Égyptiens. Les pharaons se faisaient circoncire et une minorité autour d'eux était circoncis. Les guerriers égyptiens étaient circoncis, ce qui était très important parce que sur un champ de bataille, les blessés non circoncis sont achevés. Les blessés circoncis, on sait qu'ils sont avec vous. Et quand une femme se fait violer, elle sait tout de suite si c'est quelqu'un de sa religion ou non. Donc, circoncision pharaonique, qui est devenue circoncision juive, reprise intégralement par les juifs, qui ont voulu également former, c'était un bon moyen pour eux de former une communauté. Quand ils sont allés en Mésopotamie, quand ils ont dû se réfugier en Mésopotamie, pour se différencier des Mésopotamiens, qui eux n'étaient pas circoncis, ça permettait de fonder une communauté. On savait tout de suite qui était juif ou non. Également, circoncision chrétienne. Et d'ailleurs, il y a toujours des chrétiens qui sont circoncis. Les coptes d'Égypte sont circoncis. Les chrétiens d'Éthiopie sont circoncis. Et la circoncision est tombée un peu en désuétude, mais elle a été reprise par l'islam. Et assez curieusement, dans le Coran, vous n'avez pas un verset sur la circoncision. Donc, en fait, l'islam a repris beaucoup de choses sur le judaïsme et la circoncision des musulmans est arrivée tardivement, au début. Et d'ailleurs, ce qui a expliqué la vitesse à laquelle l'islam s'est répandu, il ne demandait pas aux nouveaux fidèles de se circoncire, les premiers musulmans. Mohammed n'était pas circoncis. Si Mohammed avait été circoncis, on aurait pu penser qu'il était juif. Donc, c'est seulement vers le 10e, 11e siècle, avec les Fatimides, qu'a été instaurée la circoncision musulmane, qui depuis s'est répandue. Et puis, bien sûr, les Américains l'ont reprise, avec notamment les évangéliques. Les évangéliques, actuellement, circoncisent leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est arrivé, les évangéliques le font en Grande-Bretagne, même en France, ça revient. Et ils le font d'une façon médicale. Mais faut-il marquer physiquement des enfants, sans avoir leur avis? Parce que là, vous êtes marqué à vie dans votre religion. Circoncision masculine, mais circoncision féminine, ou appelée excision, qui existait déjà du temps des pharaons. Ensuite, j'ai intitulé un chapitre, rapidement, les femmes soumises, en commençant par Marie. Femme soumise, pour moi. Marie, Mariam en arabe. La seule femme citée dans le Coran. Aucune autre femme, même pas Ève, même pas la première femme de Mohammed, Khadija, ou même sa fille Fatima, n'est citée dans le Coran. Une seule femme, et même, c'est une sourate qui porte son nom, c'est Marie qui est citée. Et d'ailleurs, Mohammed, au 7e siècle, ce qu'on retrouve dans le Coran. Donc ça se passait au 7e siècle. Attaque violemment ceux qui affirment que Marie n'est pas vierge. Il la défend. Parce que ce qui veut dire qu'au 7e siècle, la virginité de Marie n'était pas une chose acquise. Bien sûr, les Juifs n'y croyaient pas, mais même par les chrétiens. Et il a fallu attendre récemment, hein, c'est en 1854, l'Immaculée Conception, le pape Pie IX, 1854 seulement. Et quant à l'Assomption, la levée de Marie au ciel, c'est un dogme qui date seulement de 1950, avec le pape Pie XII, donc c'est récent. Bref, je vais avancer à grande enjambée. Je vais vous lire juste un passage de mon livre que j'ai oublié de lire. Un petit passage de mon livre. Imaginons que Moïse, Jésus et Mohamed redescendent sur terre. Ne seraient-ils sans doute pas déroutés ? Le juif Jésus irait-il à la synagogue ou à l'église ? Il découvrirait ce temple inconnu et il y lirait avec stupéfaction sa parole d'évangile. L'Égyptien Moïse retrouverait-il les pyramides avec un certain plaisir, malgré la cohorte des touristes ? Préférerait-il se rendre pour la première fois à Jérusalem, derrière son mur d'apartheid ? Il se plongerait avec perplexité dans le Talmud. Mohamed, revoyant la Kaaba de la Mecque, serait stupéfait par cette religion wahhabite aux mains de fondamentalistes saoudiens. Les gardiens de sa ville natale, censeurs autoproclamés de ses dits dans le Coran, mais aussi de 1001 hadiths, le concernant auraient bien du mal à le convaincre de sa justesse de vue. Ils chercheraient vainement la tombe de sa première femme, Khadija, qu'ils ont dévastée. Et Zarathoustra, ne serait-il pas étonné de voir autant de livres consacrés au dieu exclusif qu'il avait osé imaginer, sans doute par lassitude du polythéisme sanguinaire de son époque ? Et Aristote, de son côté, serait consterné de voir le peu de raison accordé par toutes ces religions, rêvant toutes d'être l'unique. Il frémirait devant ses croyants, brandissant tant de livres contradictoires. Bien, je n'ai pas insisté beaucoup sur les différents livres saints. Je vais essayer de se faire, c'est une gageure en 2 minutes. Aucun livre saint n'a été écrit par ces prophètes. Ce sont des scribes anonymes qui les ont écrits, et bien après la mort de chaque prophète. Jésus n'a écrit aucun mot. D'ailleurs, dans l'Évangile, ils le reconnaissent, puisque la seule fois où Jésus trace des signes, c'est sur du sable au lac de Tibériade. Et ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit les Évangiles. Ce n'est ni apôtre, non. Ce sont les suivants, ceux qui tournaient autour d'un apôtre, qui ont repris. Et les Évangiles ont été écrits un siècle, 2 siècles après Jésus, et même plus, puisqu'il a fallu attendre. Il y avait à peu près 100 000 parchemins différents, disparates, que le prêtre Jérôme a recueillis et en a fait la Vulgate. C'est-à-dire que lui, il a pris un latin vulgaire et donc il a rassemblé ça et c'était le début des évangiles. C'était au 4e siècle. Et il a fallu attendre ensuite, bien longtemps, pour que l'évangile, je parle de l'Ancien et du Nouveau Testament des chrétiens, a été sacralisé. Et c'est seulement, alors que je ne dise pas de la bonne date, 1943, que le pape Pie XII a dit « Désormais, la Bible est terminée, on n'y touchera plus ». Et malgré, vous le savez qu'après qu'on a découvert des parchemins en Palestine, et la même chose pour le Coran. On a découvert aussi des parchemins récemment au Yémen, qui étaient parfois différents ou contradictoires avec ce qui existait. Et Mohamed n'a écrit aucun mot. Mohamed n'a rien écrit. Ce sont les scribes autour de lui qui ont rassemblé ses écrits. Et on a eu beaucoup de mal à différencier ses dits et ses hadiths, parce que vous savez qu'il y a le Coran, mais il a fallu faire un choix. Qu'est-ce qu'on mettait dans le Coran ou qu'est-ce qu'on mettait dans les hadiths ? Les hadiths, ça veut dire les dits de Mohamed. Hein, il y en a à peu près 100 000. Hein, Donc c'était vraiment une séparation qui a été bien humaine, là. Également la Bible. Hein, la Bible, c'est environ 150 ans avant notre ère que la Bible a été rassemblée. Et c'est seulement au début de notre ère, vers l'an 90, qu'elle a été figée. Et comme vous le savez, le premier livre, la première Bible imprimée, il a fallu attendre Gutenberg en 1455. Les musulmans n'ont pas voulu imprimer leur Bible. C'est un lapsus, mais il est révélateur. Leur Coran, ce qui est la même chose. C'est seulement en 1923 qu'à l'université d'Al-Azhar du Caire, on a imprimé le premier Coran, puisqu'avant, le Coran était sacré. Donc ce sont des scribes. Si vous avez vu, par exemple, le film « Au nom de la rose », on voit très bien ces moines, ces copistes, qui à l'époque recopiaient avec des erreurs. Et puis il y a eu les différences de langue, hein, puisque Jésus parlait en araméen, et les premières Bibles ont été en grec, et puis en latin. Et la même chose pour les autres religions. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Zarathoustra a eu 7 entretiens avec Dieu. 7, pas plus. Par contre, Moïse, comme vous le savez, a eu 40 jours. Et Moïse, d'ailleurs, on le retrouve dans l'Évangile, aurait vu Dieu de Dieu. Certes, on ne peut pas voir la face de Dieu, mais on le retrouve dans l'Ancien Testament, il aurait vu Dieu de Dieu. Jésus, par contre, pendant 2 ans. Donc de 40 jours, on passe à 2 ans. Jésus, pendant 2 ans, nous a parlé de Yahvé. Mohamed, ça a duré 20 ans. Et Mohamed, également, comme vous le savez, il y a une sourate qui porte le nom, le trajet nocturne. Mohamed, une nuit, est monté au ciel. Et il a été serré la pince d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Et puis il est revenu. Alors, mythologie ou réalité, c'est tout le grand débat. Parce qu'on parle de la mythologie gréco-romaine, mais j'ai envie de parler de la mythologie judéo-christiano-musulmane. Il faudrait que les religions retirent toute la partie mythologique, quitte à garder leur message de foi, leur message d'amour. Je respecte tout croyant. Mais il est plus concevable aujourd'hui, en 2011, on ne pourrait pas admettre qu'un Jésus monte au ciel. Certes, du temps des Romains, César, lui, à sa mort, est bien monté au ciel, c'était son apothéose, puisque les empereurs romains devenaient des dieux, l'égal des dieux. Donc, Jésus, c'était concevable en 2000, mais en 2011. Et pourrait-on admettre, aujourd'hui, de lancer l'islam? Ce serait inconcevable. Une Vierge Marie, en 2011, ou bien Sarah, qui a son premier enfant à 90 ans. Certes, il y a le record des femmes sexagénaires d'Italie qui ont pu enfanter grâce à la procréation artificielle. Mais à l'époque, c'était inconnu. Donc, tout le problème, c'est vous êtes croyant, vous êtes incroyant, je respecte votre croyance quelle qu'elle soit, votre foi quelle qu'elle soit. Tout le monde a une foi, moi j'ai une foi. Ma foi, c'est avant tout des valeurs humaines, mais je conçois très bien et dans ma famille, on peut voir la foi en un dieu, en une religion, à condition de ne pas vouloir l'imposer à l'autre et de respecter. Parce que la plus grande des choses, c'est de pouvoir se respecter les uns les autres et de pouvoir en parler d'une façon raisonnée et non pas émotionnellement. Parce que bien souvent, c'est pour ça que je me dis toujours incrédule, je ne suis pas athée. D'ailleurs, je n'ai jamais été théiste. Donc je ne peux pas être athée, je n'ai jamais cru en Dieu. Même tout petit, pour moi, c'était l'incrédulité la plus complète. Quand je dis que je suis incrédule, tout croyant accepte de discuter avec moi. Et au contraire, il me dit, ah, celui-là, on peut essayer de le convaincre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je veux savoir ce qu'il va dire. Par contre, si vous dites, je suis athée ou agnostique, c'est tout de suite le rejet, le mécréant. On ne discute plus avec vous. Bien. Je vais en terminer là. Avant de terminer, je voudrais remercier la librairie Imola. Merci de m'avoir accueilli.